Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Aujourd'hui, on reçoit un cuisinier et un défenseur de la bonne bouffe, Arnaud Daguin.
Mais oui, t'es cuisinier comme son père.
Ouais, bah on tient le Jean-Louis Debré du bœuf Mironton.
Oh, génial, on va parler de jarret de porc, blanquette de veau, andouillette, torsionnaire, laissez les animaux tranquilles.
Pas du tout. Enfin, Arnaud Daguin, il milite pour une agriculture du vivant.
Mais oui, pas opposition à l'agriculture de la mort.
Bah ouais, mon pote, ça s'appelle l'élevage, ça meurtrier sanguinaire.
Bah, ça va, voilà, il est plutôt du genre militant pour une agriculture raisonnée.
Voilà. Si l'agriculture était raisonnée, ça se saurait. Hein.
Vous voyez les garçons, la bouffe, c'est politique.
C'est une théorie de Larcher,
bah, et donc la bouffe, c'est de gauche ou c'est de droite?
C'est de droite, c'est sûr.
En fait, Daguin, il dit à chaque fois que tu manges, tu votes.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu votes.
Ah, donc si tu manges de la tête de veau, c'est plutôt que tu votes Chirac.
Et si t'aimes la cervelle, il y a peu de chances que tu votes Castaner.
Exact. La grand-mère d'Arnaud Daguin, elle disait ce que tu manges te constitue et dessine ton monde.
Le monde de Guillaume, il va être tout verdâtre, comme du tofu, et il va neiger du quinoa.
Et toi, un monde d'andouille, génial.
Bah, ça, c'est déjà un peu le cas.
On finira par manger des insectes et puis c'est tout.
Non, mais si on mange des insectes, mais qu'on vote bien, c'est plutôt pas mal. Non,
mais les insectes sont de gauche.
Ah là, la mouche tsetse, c'est clairement Benoît Hamon.
Ah bon?
Ah bah parce que comme lui, elle endort.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up publique, sorte de centre de réanimation de l'actualité où la blague fait chaque jour une intrusion violente. Ne pas manger tue. Trop manger tue. Mais mal manger tue aussi.
Ouais.
Et plus que le tabac, une étude menée à l'échelle mondiale prouve que notre régime alimentaire est décisif pour la santé. Alors mollo sur les petits trucs salés à l'apéro chez Mimille.
On va même vous faire des apéricules.
Comment ça?
Il les a collés sur la vitre. C'est le geste qui compte.
Au commencement, il y avait la viande sauvage. Ensuite, la viande d'élevage. Et aujourd'hui, la viande de laboratoire. Des gens en blouse blanche fabriquent de la chair animale en cultivant des cellules jusqu'à obtenir un steak.
Et normalement, ça doit cristalliser.
Bon appétit. Le café et la bière ont ceci de commun que nous les buvons davantage pour l'effet qu'ils nous procurent plutôt que pour le goût. Quand vous commandez une bière, est-ce que vous la buvez pour vous rafraîchir et vous détendre ou pour la délicate amertume du houblon?
Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Sinon, tu sens bon. Là que j'aime bien la mousse, mais elle m'a pas exagéré, hein.
Lui, il vous dira peu importe l'amertume, pourvu qu'elle soit brune ou blonde. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charlotte Vanhoenacker, exactement. Eh bien, belle équipe autour de la table aujourd'hui à 17h20, le petit chorizo de l'émission, puisqu'il est ibérique, un peu gras et qu'il pique quand il est bon.
C'est
Pablo Mia.
Salut Alex, bonjour Charline. Guillaume, on rigole pas à ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de déclarer mon amour aux GAFA, ces géants du web qui ont tout mon respect et surtout toutes mes données personnelles. À tout à l'heure.
À 17h30, celui qui n'est pas si végétarien que ça, puisqu'il mord dans ses contemporains à pleines dents pour en savourer la bêtise, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, je vais vous parler de l'attaque sanguinaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la réaction pleine de retenue de Christophe Castaner. Je suis allé voir les gens.
Ça a peut-être été exagéré.
Non, je ne crois pas. Non, il me semble pas.
Et enfin, à 17h40, en dessert, celle qui est svelte, qui s'enflamme d'un coup, et c'est pire quand on l'arrose de Grand Marnier. La claire rêve flambée de cette émission, c'est Juliette Arnault, évidemment.
Bonjour Alex.
Bonjour.
Vous entendez?
Oui.
Non. Un classique.
Mais quel classique?
Mais je vais pas vous le dire.
Oh la surprise! Oh là là, le suspense!
Et voici celui qui va régaler l'open space. Vous êtes. You are.
Eh bien, Arnaud Daguin, bonjour, bande de chenapans.
Oh là là!
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue, Arnaud Daguin. Chef cuisinier que nos auditeurs connaissent bien, puisque vous êtes chroniqueur dans l'émission de François-Régis Gaudry, On va déguster, sur notre antenne le dimanche de 11h à midi.
Je chronique.
Ah ouais. Et on les dévore vos chroniques, on là, les mange gentil. Avec gourmandise, parce que vous êtes vraiment talentueux, on les... vraiment,
ouais, ça y est, je rougis.
Ouais, ça y est.
Elle nous l'a dit quand vous n'étiez pas là
c'est
aussi.
Vrai.
C'est vrai, elle le dit aussi quand je ne suis pas là.
Oui,
j'envoie toujours les fleurs et puis le pot. Alors, on va commencer. Cher Arnaud Daguin, vous êtes aussi cofondateur, vice-président de l'association Pour une agriculture du vivant. Oui. On va en parler. Puis oui. vous avez aussi cofondé une cave à vin et à manger à Paris qui s'appelle Le Gag, parce que gras, alcool, gluten, voilà. mais que du bon. Donc deuxième arrondissement de Paris.
Qui se tient.
Voilà qui se pose là. Et d'abord, vous connaître un peu mieux, Arnaud Daguin. Votre père est l'inventeur du magret de canard.
Oui, je suis le demi-frère du magret de canard.
Pourquoi ?
Nous sommes nés la même année.
Ah, c'est ça.
En 1959, et dans la même maison, à l'Hôtel de France, à Auch. Voilà.
À Auch. Comment est-ce qu'on invente le magret ?
En fait, c'est l'usage de ce morceau du canard qu'il a, on va dire, inventé, puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Jusque-là, tous les morceaux du canard gras, donc le canard qui fait le foie gras, étaient mis au sel et confits, puis on les gardait d'hiver dans des pots engrais. À l'époque, on n'avait pas de frigo, c'était comme ça qu'on passait l'hiver avec de quoi mettre un peu de protéines dans la soupe. Et donc le magret, c'est-à-dire la partie maigre, l'ou magret, c'est la partie maigre du canard gras, par opposition, et il y passait comme les autres morceaux, donc allez hop, 10 jours au sel, après confit à la graisse, et après dans le pot tout l'hiver. Et à bouffer comme ça, c'était insupportable, hein. Il fallait vraiment le mettre dans la soupe ou
Ah oui,
parce que c'est vraiment une conserve artisanale dure, quoi. D'ailleurs, il y avait dans les contrats de travail des ouvriers journaliers paysans de Gascogne, il y avait un petit alinéa souvent qui disait qu'il fallait pas qu'ils mangent, qu'on leur donne à manger de confit plus de 2 fois par semaine. Non, c'est marrant, c'est devenu un truc un peu luxueux aujourd'hui. À l'époque, ouais. C'était vraiment le machin du pauvre.
Et votre grand-mère, elle a ouvert le premier restaurant végétarien à Paris, qui s'appelait La Saladière.
Absolument.
Mais en quelle année ça lui est venu?
C'était en 56.
C'est une pionnière.
C'était Avenue des Ternes, absolument. Elle faisait ce qu'on appelait à l'époque de la macrobiotique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc.
Rappelez-nous ce que c'est.
C'était un peu... c'est une façon de s'alimenter, de considérer l'alimentation à travers les principes de l'Ayurveda. Mais transposé, on va dire. Je dis ça
la
vite.
L'Ayurveda, hein. Ça vient d'Inde, ça, non ?
Absolument.
Ah oui. La culture.
C'en est gênant. C'est gênant, trouver une culture comme ça.
Non, je peux aussi chanter, si vous Et donc, elle était végétarienne, et avec son mari René, ils étaient bouddhistes aussi. Et ils ont ouvert ce restaurant végétarien en 56, avenue des Ternes.
Qui était bien fréquenté.
Oui, il y avait Cocteau, il y avait Jean Marais.
Et c'est son fils qui a fait le magret?
Non.
C'est l'autre côté de la famille. Sinon, ça faisait un méchant conflit de type, hein, quand même.
Oui, il faut avoir des adducteurs solides quand on est issu de...
Mais justement, vous faites un petit peu le... Vous avez fait quoi, Guillaume?
On va pas le répéter, ce jeu de mots.
Si, si, si.
Il y avait Frédéric Fromet sur mon épaule.
Et donc, pour que tout le monde entende bien, vous avez dit, parce que les auditeurs veulent savoir.
Je dis c'est un conflit de canard, mais j'aimerais qu'on oublie cet épisode, s'il vous plaît. C'est pas ce que j'ai fait de plus glorieux.
Vous avez la palme, mon cher.
Oh là 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 là, ça y est, c'est parti.
Mais Arnaud Daguin, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes pétri de ces deux cultures? Vous avez le côté sud-ouest magret et.
C'est ce qui m'a.
Ça vous a forgé.
Constitué, voilà. Oui, absolument.
Et vous avez lancé un mouvement qui s'appelle Pour une agriculture du vivant.
Alors, j'ai
une
pas association. Fait ça tout seul. Hein.
Non, j'imagine, cofondé.
Quelques-uns. Mm-hmm. Ça fait des années que je me préoccupe de ce que je pense être le sujet pour les années et décennies qui viennent, puisque de fait j'écoutais ma grand-mère qui me disait « ce que tu manges te constitue », ça veut dire que ce avec quoi tu t'alimentes te fabrique jour après jour, de l'intérieur donc, et puis ce que tu manges par le choix que tu fais dessine ton monde à l'extérieur, donc il n'y a quand même pas d'autres sujets qui sont aussi impactants pour notre avenir, je trouve, et donc ça fait des années que je me préoccupe de la valeur total et global des produits alimentaires. Et quand on fait ça, quand on est cuisinier, on est obligé de se retourner derrière son épaule, voir ce qui s'est passé avant de soi. Et là, on découvre des trucs un peu étranges, surtout pendant les années 70-80. On s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on pensait être un poulet normal, ben en fait, c'est juste de la merde déguisée en poulet, quoi. On réalise ça. Ce qu'on pensait être une courgette, c'est juste de la flotte avec rien dedans. Et puis surtout, la façon dont ces produits nous hypothèquent notre futur. Mais vraiment, quoi. Mmh. Et donc, à partir de là, j'ai, en même temps que j'étais cuisinier, eh bien, j'ai commencé à m'occuper aussi de ces sujets. Là.
Vous proposez aux restaurants et aux industriels de les accompagner dans une forme de transition agricole ?
En fait, on a fait une plateforme qui se veut vraiment transversale et qui va du sol, puisque c'est de là que tout part, jusqu'aux rayons ou aux assiettes.
Ouais. Hein, voilà. Mais on peut convaincre Flunch ou les supermarchés U qui sont partenaires et qui donnent des sous, je pense, à votre association, de se convertir à ça. Flunch, il y a moyen de... Parce que si on convertit Flunch, c'est super,
c'est là qu'il y a le plus de marge de progression, déjà. Ouais. On est content.
Vous allez fluncher souvent, vous
Bah, j'y vais, ouais. Là, je vais les former en plus, c'est-à-dire que, les former entre guillemets, mais je vais causer avec les gérants des restaurants Flunch pour qu'ils soient dans la bonne vision de la façon dont ils vont eux-mêmes gérer cette transition qui est inéluctable. De toute façon, là, ce qui est, pour répondre, Charline, à votre remarque, en fait, tout le monde sait qu'il va falloir y aller. La vraie question, c'est pas on y va, on n'y va pas. La vraie question, c'est comment et qu'est-ce qu'on y perd et qu'est-ce qu'on y gagne. Et c'est ça le boulot intéressant.
Et
c'est
on
de
va
montrer
les
bénéfices de ça. Ouais.
Ouais. Chez Flunch, si on pouvait perdre la Macédoine, ce serait bien.
Je ne rentrerai pas.
L'association s'appelle Pour une agriculture du vivant. Le chef cuisinier Arnaud Daguin avec nous. Et il est là jusqu'à 18h, donc on va parler de notre assiette, bien sûr. Et on va regarder ce qui se passe dans celle du voisin aussi, il n'y a pas de raison. C'est par Jupiter, quand même. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that Peter is gold? After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Stand-up, Bob Marley sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. C'est le chef cuisinier Arnaud Daguin que nous recevons aujourd'hui, que vous écoutez dans cette très belle chronique dans On va déguster, chez François-Régis Gaudry le dimanche à 11h, qui a cofondé une cave à vin et à manger à Paris, qui s'appelle GAG, parce que gras, alcool, gluten, mais c'est que du bon.
Oui, ben voilà.
Autour de la table.
Celui qu'on ne retrouvera pas au GAG, c'est Guillaume Meurice, celui qui est déjà allé au GAG. Oui, c'est Pablo Mira. Ouais. Et c'est qui stat, c'est Juliette Arnaud.
L'information, elle a toujours une longueur d'avance.
Mais bien sûr.
Faut pas prendre les Français pour des canards sauvages.
Le journal de presque 17h17.
Ça va mon coin coin.
Et on commence par les titres.
Hier à Moscou, l'atterrissage d'urgence d'un avion en feu a fait 41 morts. Selon le pilote, la foudre serait en cause.
Selon Christophe Castaner, il pourrait s'agir d'une attaque de gilets jaunes.
Dans l'affaire Vincent Lambert, un comité de l'ONU demande le maintien provisoire des soins.
Je veux pas paraître cynique, mais pour une fois que le comité de l'ONU prend une décision, il faut que ça tombe sur un mec en état végétatif.
Et bref.
Et les brèves, l'ONU est pour le maintien provisoire des brèves.
Et on commence par Nathalie Loiseau.
Ah oui, parce que c'est beaucoup de bonheur.
Beaucoup de bonheur.
Elle était interrogée sur France Inter ce week-end et Karine Becker lui a demandé ce qu'elle pensait de se retrouver face au Rassemblement National.
J'aurais préféré avoir un adversaire principal différent de celui-là. Simplement, c'est celui-là que je combats. Ça tombe bien, c'est mon engagement de toujours. Battre l'extrême droite, c'est aussi pour ça que je suis entrée en politique.
C'est son engagement de toujours. Eh ben dites donc, c'est pour ça qu'elle est rentrée en politique, évidemment.
Ah oui, mais quand elle est rentrée en politique à Sciences Po, elle était sur la liste avec des gens du GUD.
Mais oui, mais c'était pour mieux les observer, sans doute pour mieux les combattre.
Ah, d'accord. Passons à Benjamin Griveaux.
Oui, parce que c'est beaucoup de bonheur aussi, évidemment. Il est candidat à la mairie de Paris et face à Jean-Jacques Bourdin, il avait un avis sur Anne Hidalgo.
On peut pas, quand on est maire de Paris, décider tout seul dans son coin, dans son bureau.
On peut pas. Il a raison, ça ne se fait pas.
Mais attendez, est-ce que Macron, il fait ça pour gérer la France. Quand il fait ça, alors Griveaux, il dit rien.
Oui, mais il est pas d'accord sur le fond avec ça, Griveaux.
Mais oui. Passons à Jean-Luc Mélenchon.
Mais oui, parce que c'est beaucoup de bonheur aussi. Hein, sur TF1, il parle du fait que les insoumis sont les gens qui votent le moins aux européennes.
Je mets en garde mes amis et nos électeurs. Si vous ne le faites pas, vous allez laisser M. Macron sortir triomphateur et vous allez voir ce qu'il va vous mettre.
Eh ouais, voilà, il incite les gens à aller voter.
Mais au deuxième tour de la présidentielle, il avait plutôt dit aux gens de rester chez eux.
Mais c'était avant ça.
Mais en fait, c'est beaucoup plus clair quand vous l'expliquez.
Mais demandez-moi, international.
En Indonésie, des dizaines de bateaux pratiquant la pêche illégale ont été coulés.
Selon Christophe Castaner, il pourrait s'agir d'une attaque de gilets jaunes.
Médias, à présent.
L'IFOP a dressé un classement des journalistes jugés bienveillants, selon les Français.
Et en première position, on retrouve Nikos Aliagas.
Et ça, c'est étonnant.
Vous êtes étonné que les Français jugent bienveillants, Nikos Aliagas?
Non, je suis étonné que les Français jugent journalistes, Nikos Aliagas.
En revanche, en dernière position, on retrouve Éric Zemmour.
Ah, ça c'est étonnant par contre.
Vous êtes étonné que les Français ne jugent pas bienveillant Éric Zemmour?
Ah non, je suis étonné que l'IFOP le juge journaliste surtout, ça c'est pas bien.
Environnement à présent, car un rapport alarmiste de l'ONU sur la biodiversité tire la sonnette d'alarme. Une espèce sur 8, animale et végétale, risque de disparaître à brève échéance.
Selon Christophe Castaner, il pourrait s'agir d'une attaque de gilets jaunes.
The Voice, à l'issue des battles, Mika garde deux candidats et Soprano crée un groupe.
Eh ouais, c'est fou le nombre de trucs qui se passe un samedi soir dont on n'en a rien à foutre.
En effet, en effet.
Et les brèves, pas de transition.
Et les brèves,
Yveline. Voilà. Deux points.
C'est épuré à la japonaise.
Yveline, un jeune, chute de deux étages en égouttant ses pattes et se casse le pied. Ouais. On tient là le Mike Brandt de la coquillette.
La dernière,
Paris, un commissariat fermé au public pour cause d'invasion de puces. Donc si vous allez porter plainte, vous pouvez toujours vous gratter.
Oh oui,
parce que les puces,
c'est
pour les enfants qui nous écoutent.
C'est hyper beau.
C'est brillant. C'est France Inter.
Bah,
17h25.
Première radio de France, hein, c'est pas un hasard non plus. Hein.
Vous écoutez Par Jupiter. Le chef cuisinier Arnaud Daguin est en notre compagnie. On va aborder ce premier sujet aussi avec Pablo Mira et Juliette Arnaud. On connaît le danger de la sous-alimentation et celui de la suralimentation. Gérard Larcher, on pense à toi. Grâce à une étude menée dans 195 pays, on identifie mieux les dangers de la mauvaise alimentation. Manger trop de sel, pas assez de fruits ou trop peu de céréales complètes, voilà qui provoque une mort sur cinq dans le monde, d'après cette étude. Mal manger tuerait plus que la cigarette, donc. Et là, je vous entends déjà dire, à partir de demain, je fais hyper gaffe.
Mais non, mais je mange pas de pizza à cause du gluten, tu sais bien.
Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pénible cette maladie, hein.
Ah non, mais je suis pas malade. Enfin, je crois pas. C'est juste que tout le monde dit que c'est pas bon, alors principe de précaution.
Ah d'accord. Toi, tu serais condamné à mort. À ton dernier repas, tu prendrais du Coca Light.
Un extrait de Adopte un veuf, le film de François Dozania. Nous nous sommes basés sur un article paru dans Le Monde, daté du 4 avril, qui nous explique les résultats de cette étude. Une consommation excessive de sel, boum, 3 millions de décès. Un apport insuffisant en céréales complètes, boum, 3 millions de décès en plus. Et il y a davantage de décès liés à un régime déséquilibré qu'à un régime très très gras à base de pizza, de hamburgers et toutes ces saloperies. La mauvaise alimentation, elle tue plus que la cigarette aussi, Arnaud Daguin. Et pourtant, on a le sentiment que l'État, il fait beaucoup moins de choses pour régler ce problème. Oui, que pour le tabac.
D'abord, ça doit être moins facile à prendre au niveau de l'État. Ça parle de quelque chose qui est très très révélateur sur nous tous aujourd'hui. Dans notre histoire d'Homo sapiens, on est passé d'une civilisation de combien je mange, c'est-à-dire de comment je règle l'histoire de la famine et de comment je peux nourrir tout le monde, à une civilisation de comment je mange. Et c'est très important de le réaliser parce que justement, c'est en pensant à cette question et en se cultivant nous-mêmes sur la question « comment je mange » qu'on peut peut-être réorienter pas mal de choses et pas seulement notre santé. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Et en fait, ce que je vous invite à faire quand on parle de ces sujets maintenant, si vous le voulez bien, à partir de dorénavant, c'est contraint et forcé. C'est de penser à une santé qui serait une santé unique de toute notre planète, sol, plantes, animaux et nous confondus.
Donc on arrête de manger de la viande, quoi. C'est ce que vous préconisez.
C'est pas sûr, ah. Parce que justement, la planète elle a été en bonne santé pendant quelques millions d'années. Et il y en avait du monde qui bouffait de la viande hein, sur la planète pendant quelques millions d'années.
Mais là, il n'y a jamais eu autant de monde sur la planète.
Voilà, il n'y a jamais eu autant d'humains sur la planète. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose.
Pas une solution. J'ai réfléchi à ça.
Il faut réfléchir à ça.
Il faut manger des gens en bonne santé.
Exactement.
Oui, c'est voilà. Oui, cette idée, c'est de manger les bêtes en bonne santé.
Imaginez en train de déguster un obèse de Floride.
Non,
je ne le sens pas.
Du magret d'obèse, du coup.
Oui, du maigre dans l'obèse, il y en a peu.
Arnaud Daguin, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de vraiment équilibrer ses repas ne fût-ce que pour une santé normale? Je vous pose cette question parce que je sais que dans le restaurant de votre père, qui a inventé le magret de canard, vous dites à un moment le personnel était devenu si nombreux qu'il a fallu créer une cuisine à part pour le déjeuner et c'est là qu'on a commencé à acheter des produits standards.
Oui,
donc c'est sûr que plus on est
ce
nombreux,
qui m'a un
moins...
peu alerté à ce moment-là parce que moi je ne savais même pas que ça existait. Quoi. Mmh. Et donc j'ai vu arriver des poulets, comme je disais tout à l'heure, qui n'en étaient pas, des légumes pas terribles, et même à une époque, on a carrément acheté des plats déjà surgelés pour voir, quoi, parce que c'était plus vite fait, que ça rendait le boulot du communard, comme on l'appelle, plus facile.
Mais bon, il n'y avait pas encore conscience
ça a pas
de
duré
l'impact.
Longtemps. Mais non, ça n'a pas duré longtemps, on s'est vite aperçu que d'abord c'était très cher pour ce que c'était. Et qu'en fait, ça n'a mené du plaisir à personne, et on a commencé à se douter très vite qu'en plus, ça avait des effets collatéraux désastreux, quoi. Et là-dessus, mes grands-parents maternels, donc qui s'occupaient d'écologie avant l'heure et de macrobiotiques, m'avaient bien prévenu en me disant c'est un aliment, c'est pas forcément le même tout le temps. Il y a carottes et carottes, il y a poulet et poulet. Et de fait, aujourd'hui, le plus important pour nous tous, c'est de nous cultiver nous-mêmes pour commencer à comprendre ça. C'est-à-dire ne plus être démunis, complètement désarmés par rapport à une offre pléthorique dont on va voir qu'elle va s'étoffer avec de la fausse vraie viande en éprouvette pour Guillaume.
On va y venir, oui.
Parce qu'il ne faut pas tuer les carottes, les animaux. Vous savez que les carottes crient quand on les arrache du
sol. Ah, ça y est, le point crie de la carotte, on dit, il est 17h.
Les carottes ont une âme.
On a atteint le point C.
Je profite de ce top horaire, car il est 17h30 maintenant déjà sur France Inter. Ah. Et quoi de mieux pour défendre les géants du web que de passer la parole à un nain de la radio? C'est Pablo Mira. Pablo, mon petit ange trapu, aujourd'hui, vous vous insurgez contre celles et ceux qui veulent démanteler les GAFA ou GAFAM.
Ouais, ma louloute, je voudrais tirer mon chapeau aux GAFAM, chapeau que j'ai cherché sur Google, acheté sur Amazon et partagé en photo sur Facebook grâce à mon iPhone,
et
évidemment.
Et rien sur Microsoft dans votre petite histoire?
Ben non, Windows a planté en toute évidence. Grand coup de chapeau donc, car ces géants du web ont bouleversé notre quotidien. On sera jamais assez reconnaissant, par exemple, envers Steve Jobs d'avoir conceptualisé un objet comme l'iPhone qui réunit autant d'outils. Regardez, musique, radio réveil, ordinateur, il fait même coquillage, sauf que quand on le met contre son oreille, c'est pas la mer qu'on entend, mais l'usine chinoise où il a été fabriqué. Écoutez bien.
Magnifique. On s'y croirait. On est à Shenzhen, techniquement.
En quelques années, c'est simple, l'iPhone est devenu indispensable. C'est un peu le hamster du 21e siècle. Tous les gosses en veulent un, même si on sait qu'il mourra dans 2 ans. Citons également l'apport de Facebook dans les GAFAM, grâce à qui Facebook, on peut désormais savoir ce que devient son ex et se rendre compte que, voilà, de toute évidence, elle est bien moins heureuse que lorsqu'elle était avec vous et que son nouveau mec n'a que 500 amis. Le ringard. En plus, il est agent immobilier.
Oh, Pablo!
Alors, Notre monde ne serait pas le même non plus sans Google. Sans Google non plus, évidemment. Comment ferait-on sans ce moteur de recherche pour obtenir un renseignement, hein? On ferait comment? On sortirait dans la rue pour établir un contact social avec un inconnu par le biais de ce qu'on appellerait une conversation. Non, voilà, je crois que l'humanité n'est pas prête pour ça, Charline. Laissons ces délires à la science-fiction. Je pourrais aussi vous parler d'Amazon. C'est formidable, Amazon, pour le coup. Mes achats sont toujours personnalisés. Hier, par exemple, je commande le dernier Guillaume Musso. Immédiatement, Amazon me propose une broyeuse. Action, réaction. Puis tout va tellement vite chez Amazon, c'est incroyable. Le soir, à 20h, on commande un article. Le lendemain, à 9h, la dépression arrive chez l'employé qui a dû s'en occuper en urgence. En plus, ils ont le chic pour gâter leurs clients chez Amazon. Il y a toujours des super promos. Là, en ce moment, une des promos que j'ai vu passer, c'est 5 livres achetés, 5 libraires au chômage. Alors, bien sûr... C'est évident que tout n'est pas rose au sein de ces entreprises. J'ai lu des choses très dures sur ce qui se passe dans les entrepôts d'Amazon. J'ai lu que des employés n'osaient pas prendre de pause par peur de se faire renvoyer et donc ils urinaient dans des bouteilles. Et comment ne pas être choqué d'entendre ces salariés mettre en péril notre livraison garantie en 24 heures pour satisfaire égoïstement leur vessie. Heureusement, ce genre de scène sera bientôt un mauvais souvenir, car d'ici 10 ans, Amazon, écoutez bien, prévoit de remplacer ses employés chargés du conditionnement des produits par des robots. Et moi, je vous le dis, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble une machine qui tente de mettre fin à ses jours. En tout cas, moi, j'ai remarqué que dès qu'on parle des fameux GAFAM, les critiques sont très très sévères, voire de mauvaise foi, surtout quand j'entends des âneries telles que « Ouais, les GAFAM ne payent pas d'impôts. Ouais, les... » Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, c'est de désactiver mon Google Home, il s'active dès qu'il entend le mot « impôt ». Excusez-moi. C'est bon. Alors le nouveau grand truc à la mode avec les GAFAM, sur les GAFAM, c'est de se plaindre de la commercialisation de ces données personnelles. Alors oui, d'accord, quelque part dans le monde, il y a des gens chez Google qui connaissent tout de votre vie. Mais honnêtement, qui est le plus à plaindre? Vous ou l'employé de la Silicon Valley chargé d'analyser l'historique internet d'Alex Vizorek? Bah ouais, excusez-moi, mais parce que voir passer à longueur de journée des vidéos intitulées « Hot Wallon with Black Michel Thor », ça vous détruit un homme, ça. Pour conclure... Les GAFAM sont devenus, je le dis, indispensables à notre quotidien et les renier, eh bien, ferait faire à l'humanité un bond en arrière de 20 ans au moins. Et je ne sais pas vous, mais moi, je préfère céder toutes mes données privées et mon intimité plutôt que de revivre à une époque où l'on pouvait dire tout haut sans risquer d'aller en prison. Tiens, j'irai bien au concert de la Rousseau. Allez, salut.
Pablo Mira, en grande forme, en forme olympiesque.
Oh, j'étais en première.
Aux olympiesques. Ouais, on peut inventer des mots, hein. On est sur France Inter dans Par Jupiter, dis donc. Merci Pablo.
J'ai tout donné.
J'ai dit des choses que je pensais pas, accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Tu changes et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça.
Transformation. C'est déroutant, comment t'en parles?
forme en château fort.
Flavien Berger, Castelmore sur France Inter.
Wouh ! Pardon, c'était pas la bonne énergie.
Ça,
pardon, pour les annoncer, excusez-moi, il y avait un contraste. Je reviens de chez Énergie, donc je suis au taquet.
Castaner, il danse en boîte là-dessus, hein. Mais des slow.
Il emballe.
Ouais. Évidemment. Par Jupiter, c'est Arnaud Daguin qui nous accompagne jusqu'à 18h, le chef cuisinier que vous entendez notamment dans On va déguster chez François-Régis Gaudry le dimanche à 11h sur cette antenne. Tout va bien Arnaud Daguin ?
Tout va bien.
On va aborder des sujets pointus en alimentation avec vous. Hein. Attention, préparez-vous. En attendant, je vous laisse vous échauffer en écoutant Guillaume Meurice.
Ben oui, on va revenir sur l'attaque barbare de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À l'instant même où je vous parle, il y a encore des centaines de blessés à l'intérieur du bâtiment. C'est terrible. Les images sont insupportables. On les a tous vues. Hein. On n'avait pas vu un tel massacre lié à un service de chirurgie depuis la dernière vidéo d'Ariel Dombal. Cette attaque, on le sait, est l'œuvre de gilets jaunes armés jusqu'aux dents. Enfin, les dents qu'il leur reste, ces fumiers de pauvres. Pardon, j'ai coécrit la chronique avec Edouard Philippe. Hein, c'est pour ça. Alors heureusement, la réaction de Christophe Castaner, alias Cricri le Fada sur Tinder, a été à la hauteur. Il a condamné avec fermeté ses actes avant de revenir sur le mot attaque et parler d'intrusion violente. Alors on pourrait se lancer comme ça dans une bagarre sémantique, mais on va pas enculer les mouches. Notre invité fait déjà suffisamment de mal aux animaux en massacrant des canards.
Alors comme
ça leur ferait peut-être plus plaisir, mais c'est pas le sujet du jour. Alors comme tout ça est un peu confus là, cette histoire d'hôpital, je suis allé voir les Français parce qu'ils ont toujours un avis tranché, et comme je pouvais m'y attendre, il y a toujours des révisionnistes qui nient l'attaque et critiquent notre beau ministre.
Il a été un peu trop fort parce que, bon, quelquefois, dans le feu de l'action, on dit des choses, mais il faut être sûr de ce qu'on dit, surtout quand on est un ministre.
Il a parlé d'attaque, lui. Hein,
oui. Oui, non, pour moi, ce n'est pas une attaque. Quelque part, monsieur Castagné.
Ah, c'est presque ça, mais j'ai envie de dire, ça lui va plutôt pas mal, monsieur Castagné, également comme pseudo Bolapsus. C'est vrai que c'est une mélange entre une cagole et Chuck Norris, voilà, notre ministre, donc Castagné, ça vient, ou Castagneur, voilà, ça serait plus juste. Alors, heureusement, parmi la population, il y a des gens qui sont convaincus par la barbarie.
C'est dramatique.
Qu'est-ce qui est dramatique?
De rentrer dans des établissements comme ça, c'est tout. Mmh. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On peut le qualifier comme attaque, oui, si on veut,
oui. Ouais.
Oui, bien sûr. Après, attaque, ça veut tout dire et rien dire. Quoi. Je veux dire, on n'a pas rentré dans des lieux comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, attaque?
Et non, j'ai pas suivi après tout le...
Vous n'avez pas suivi plus que ça?
Non, pas plus que ça, non. Pas plus que ça.
Voilà, bon, alors lui, s'il y a un poste de conseiller de Castaner qui se libère, à mon avis, c'est bon, hein, il n'a rien suivi et il a un avis, ça pile les compétences pour le poste. S'il pouvait s'y connaître en coupe mulet et en barbecue, hop, place Beauvau, direct. Allez, allons voir une dame bien renseignée également.
On n'a pas affiche le bazar dans ces trucs-là, quoi, c'est tout.
Mais est-ce qu'il y a eu vraiment bazar?
Ben, j'en sais rien, mais ils sont rentrés quand même à plusieurs personnes avec leurs gilets jaunes, donc quelque part, ça incite quelque part.
Ça incite au bazar.
Ça incite à penser ça.
Mais est-ce qu'il y a eu du bazar?
Ah mais ça, quelque part, on s'en fiche.
Voilà, tout à fait d'accord. Quelque part, on s'en fout. Alors là, si Ruth Elkrief a besoin d'une remplaçante, on a cette dame qui est disponible immédiatement. Elle peut même bosser sur France Inter, hein, où la personne la plus mesurée suite à cet événement a été Dominique Seux, quand même. Hein, qui est quand même à l'insurrection, ce que Raphaël Glucksmann est à la gagne. Hein, Rafoulaouine. Si, Léa Salamé l'appelle Rafoulaouine, hein, entre deux rails de l'exomile. Toujours est-il que le peuple français est en émoi face aux gilets jaunes qui voulaient...
Pour casser, quoi. Voilà, c'est tout.
Là, ils voulaient casser l'hôpital ?
Pas casser, mais le matériel, les choses comme ça, quoi, vous voyez. Puis ça, c'est en plus, c'est l'hôpital de Diana, vous voyez, l'histoire.
De Diana.
Diana.
De Lady Di ?
Oui. Où elle a terminé ses jours. Donc,
voilà. Les salauds, les salauds ! Ils s'en sont pris à la mémoire de Diana. Tout ça, c'est calculé. C'est une vraie volonté de nuire à Stéphane Bern derrière tout ça. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Hein, c'est Diana qu'on assassine une seconde fois. Ça suffit. Envoyez vos dons à l'association Touche pas à mon poteau. Hein, c'est au niveau du pont de l'Alma.
Non,
et
non.
Si, c'est moi qui viens de la créer. Et honte aux gilets jaunes.
Qui manifestent dans la rue, ok. Déjà, ils nous dérangent. Mais qu'ils aillent dans les hôpitaux en plus, alors ça non. Mais non, c'est de l'anarchie maintenant. Moi, je reste chez moi. Je revendique mes affaires. mais par moi-même, j'ai pas.
Comment vous faites alors pour revendiquer vos...
Mais j'écris.
Vous manifestez par correspondance.
Voilà.
Voilà. Ben ça, c'est une très bonne manière de faire. Envoyer des recommandés, hein, comme ça vous suivez bien le chemin de la lettre jusqu'à la corbeille. Ou manifester par télépathie. Voilà, pensez un truc très très fort et ça, ça va bien les faire chier au gouvernement. Mais laissez-nous tranquilles et trouvez d'autres manières, surtout quand vous êtes pris à partie par les CRS.
Ils auraient pu rentrer par l'entrée principale. Donc s'ils étaient rentrés dans l'entrée principale pour se réfugier, bon ok. Que...
Ils auraient pu prendre rendez-vous.
Exactement. Ben, ils auraient attendu 5 heures et puis voilà, ils seraient rentrés.
C'est quand même pas compliqué. Pour rentrer dans un hôpital, on suit la procédure. On se fait d'abord péter la gueule par des flics et après on est autorisé à rentrer. On est libre d'agoniser sur un brancard dans un couloir. Voilà. C'est très simple. Et ce qui est simple aussi, c'est que parfois, c'est vrai que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais souvent c'est le ministère qui se fout de la vérité.
Merci Guillaume Meurice, hashtag je suis salpêtrière, à 17h42 sur France Inter. Arnaud Daguin avec nous, chef cuisinier, cofondateur d'une cave à vin et à manger à Paris qui s'appelle Le Gag. Gras, alcool, gluten.
C'est un programme qui me sied.
Et là-dessus, parlons de ce deuxième sujet.
Cholestérol, il y a un C après.
Il y a un très bon cholestérol.
Oui, mais bon cholestérol.
Oui, oui, il y a
le c'est bon que du bon gras, du bon alcool, du bon gluten. La viande de laboratoire sera commercialisée à la fin de l'année déjà. L'entreprise Finless va commencer par proposer du thon rouge qui n'a jamais vu la mer, car il est fabriqué à partir de cellules de thon cultivées en labo. Pareil pour la viande qui sera disponible dans 5 ans. De la viande sans qu'une bête n'ait été tuée. Baptisée viande Frankenstein par ses détracteurs, elle sera présentée comme produit de luxe pour mieux nous la faire avaler. Pour l'instant, seuls quelques journalistes ont pu la goûter. Sont-ils sortis indemnes ?
Monsieur Tricatel ?
Oui ?
Excusez-moi de vous déranger.
Oui ?
Le service de sécurité de l'usine vient d'appeler.
Quoi, l'usine est en flamme ?
Non, non, il signale que deux hommes ont réussi à s'introduire à l'intérieur de l'usine.
Bon, les arrêtons, on les livre à la police.
D'après leur signalement, il s'agit de Duchemin et de son fils.
Duchemin est en ce moment dans mon usine ?
Exactement. On prévient la police.
Vous êtes fou ! Je vais à tout prix les empêcher de sortir de cette usine.
Vous voulez dire que...
On peut très bien fabriquer quelques boîtes de conserve supplémentaires, non ?
On y est depuis un moment, dans l'aile ou la cuisse de Claude Zidi, bien sûr. C'est un article paru ce matin dans l'Opinion, les pages en collaboration avec le Wall Street Journal. C'est la solution pour manger de la viande sans souffrance animale, Arnaud Daguin. Vous pourriez
alors,
en manger,
dans
vous
dans la solution, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est le mot « là ». Il n'y a pas la solution, il n'y a pas l'homme providentiel, il n'y a pas la potion magique non plus.
Mais là, on a tué personne, on a prélevé des cellules, on les a fait, on les a cultivées
directement. Enfin, on n'a pas tué d'animal directement, c'est vrai, c'est pas le problème en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, depuis le temps que je m'occupe entre autres des bestioles, mais pas que, enfin, du monde vivant et de ce que nous mangeons et ce aussi qui est mangé par qui et par quoi tout le temps, j'ai pu me faire à l'idée qu'en fait, l'important, c'était pas tellement si on avait le droit ou pas de tuer un être vivant pour le manger, mais plutôt, enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que parce qu'on sait produire du vivant, alors le vivant est un produit ?
Il est fort. Bon, parce qu'on a l'impression que ça nous laisse 4
heures et qu'on va
en fait.
Je suis bouche bée. Je réfléchis à ce que vous venez de dire et ça risque de prendre un moment.
En fait,
la question est un peu, est-ce qu'on a le droit quand même de tuer d'autres espèces ?
Alors si la question est-ce qu'on a le droit, il faut aussi poser la question aux autres espèces.
Alors ils répondent pas pour l'instant.
Rien pour l'instant.
Mais vous pourriez en manger de cette viande, la goûter, la manger, ou vous en faites une affaire de principe
Non, alors d'abord
que de la viande élevée en laboratoire,
si
pas de la viande.
On me porte un bout de photon, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Photon, voilà. Ouais. Même si c'est pas des Lumières qui l'ont inventé.
Ou de la fausse viande.
L'idée, c'est quand même de vouloir remplacer quelque chose qu'on n'assume plus. Moi, ce qui me pose problème, c'est le quelque chose qu'on n'assume plus. Donc, nous sommes partie du vivant. Nous sommes, depuis le début, partie intégrante du vivant. Et donc, cette hubris formidable qu'on a, qui nous permet de penser qu'à un moment donné, on peut s'extraire de ça. Et depuis le début de l'agriculture, on fait que ça. C'est-à-dire, depuis 12 000 ans que dure le néolithique, en gros, nous, homo sapiens, on dit on va faire plus et mieux que la nature en se foutant sur la gueule avec elle tous les jours que Dieu fait. Et on le fait. Résultat des courses, on se retrouve à fabriquer du désert à jet continu depuis à peu près 12 000 ans. Quand vous voyez la gueule du croissant fertile aujourd'hui, vous savez exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire une accélération de l'érosion naturelle par facteur 100. Au Péloponnèse, c'est pareil, et la région du Languedoc, là de Montpellier, aujourd'hui, c'est exactement la même chose, et ça sera bientôt bah, ailleurs de la même façon. Il faut voir le temps long, l'humain fabrique du désert, d'ailleurs Rochefoucauld nous l'avait dit,
Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Donc c'est ça, moi, qui m'ennuie un peu.
Mais c'est un problème de créer c'est un problème éthique ou de créer du faux.
Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes devant un défi, nous, les Homo sapiens, qui est aussi lourd que celui devant lequel nous étions il y a 12 000 ans, quand on a été obligé de s'arrêter de prélever pour commencer à produire. C'est ça notre histoire. À un moment donné, on est trop nombreux, on n'a plus de ressources, on ne peut plus être nomade et chassé. Bah il faut qu'on s'arrête.
Là, on
passe
à un autre stade.
Exactement.
C'est le stade au-delà de produire par l'élevage, c'est produire en laboratoire.
On a le choix. C'est-à-dire, soit on fait ce transhumanisme poussé par l'hubris dont on parle quand on veut fabriquer de la viande dans les éprouvettes, soit on se réconcilie avec le vivant.
Mais c'est ce qu'on fait déjà, fabriquer de la viande en éprouvette, puisque toutes les races, enfin beaucoup de races bovines qui existent par exemple, c'est des races qui ont été...
Quelques bébés humains aussi.
Voilà, c'est des races qui ont été sélectionnées génétiquement et tripatouillées. Oui,
alors le génisme n'est pas encore de fait chez
la différence,
humains, mais ça va pas tarder.
La différence ici, c'est qu'on mange de la viande et on n'a pas, pas dû abattre.
Mais pourquoi appeler ça viande? Parce que c'est ma question. On peut appeler ça autre chose. Pourquoi
c'est de la chair?
Vous comprenez bien qu'on est poussé à un oxymore absolument formidable qui est de désincarner la viande.
Ouais.
C'est quand même...
Et on risque d'arriver à du faux.
C'est très révélateur de ce que nous sommes aujourd'hui.
On peut arriver à du faux, c'est-à-dire qu'avant on mettait du cheval à la place du bœuf, maintenant on aura de la fausse viande et on ne nous dira pas que c'est de la fausse viande.
Ma grand-mère, Fanny, nous faisait des steaks hachés à base de sarrasin et de betterave. Ils étaient rouges, ils étaient assaisonnés, elle y mettait tout ce qu'il faut. Ça faisait du steak haché de folie. On n'a jamais vu la différence. Et pourtant, je vous assure, mes sœurs et moi, on a vécu dans un hôtel restaurant 2 étoiles, quoi. Hein, voilà. On peut baiser n'importe qui avec le goût.
Oh, c'est bon, on va rester là-dessus.
Sauf Alex, je vous parle. Je vous ai
pour les préservatifs à la fraise, c'est le meilleur slogan qu'on ait trouvé. 17h48.
Pardon.
C'est là que je dois faire une transition avec Juliette Arnault. C'est toujours très bien. Du courage, Charline. Juliette Arnault.
C'est bien, c'est simple.
Un classique, quel classique?
Ça va viendre, ça va viendre. Dans les années 50, Fernand Reynaud faisait rire les Français avec notamment un sketch qui s'appelait « Bourreau d'enfant » où un papa demandait à son fils, Toto, de manger sa soupe.
Toto, mange ta soupe.
Non, je la mangerai pas. Un soir, je veux pas manger ma soupe.
Arrête-toi de pleurer, Toto, sans ça, je vais te foutre une tarte, moi. Tu sauras pourquoi tu pleures.
Là, Toto se mettait à hurler, donc les voisins entendaient et criaient « bourreau d'enfant » et le père de Toto se tapait la fiche et cédait. Toto ne mangeait pas sa soupe. En 1957 sort un livre d'un jeune écrivain italien, Italo Calvino. Italo Calvino, c'est un ex-résistant, c'est un militant communiste. Le livre deviendra un classique, il s'appelle « Le baron perché ».
Combien ?
Alors, tout le monde dit, en parlant du baron perché, que c'est un conte fantastique. Moi, je ne suis pas sûre. Je ne l'ai pas pris de la sorte quand je l'ai lu ado. Je viens de le relire 30 ans plus tard. Ouf ! Toujours pas. Je ne pense toujours pas que c'est un conte fantastique. Encore moins, peut-être, je m'explique. Le point de départ du baron perché me semble parfaitement, tout au contraire, très réaliste. Cosimo, 12 ans, ne veut pas manger une soupe aux escargots préparée par sa cinglée sadique de sœur. Il quitte la table pour éviter d'être enfermé au cagibi et il grimpe sur une gueuse du jardin. Une gueuse, c'est un chêne. Le père, son baron, donc de père, qui est à terre, lui dit « Je vais te montrer, moi, que tu descendras. » Et le fils, qui va devenir le fils du baron, donc l'héritier, donc un jour le baron, et qui est perché, répond « Et moi, je ne descendrai plus. » Et à la différence de mes fugues qui s'achevaient sitôt que j'avais fini mes rations de survie, mes BN à la fraise, et avant même que mes parents aient relevé mon absence, très humiliant, Cosimo, lui, tient sa parole et ne descend plus de lieuse et des autres arbres, mais plus jamais. D'où, j'imagine, l'emploi de termes de contes fantastiques. Sauf que Cosimo vit au XVIIIe siècle, à la campagne en Italie, et que l'univers de Sèvres des habitants d'Ombrosa, l'endroit où il est, s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Le père s'entête, c'est ridicule cet héritier qui ne veut plus mettre un orteil sur le plancher des vaches, il ne menace plus, il argumente que la rébellion ne se mesure pas au nombre de mètres. À quoi Cosimo, là des arguties paternelles, rétorque « Mais moi, du haut des arbres, je pisse plus loin !» Oui, je sais, on dirait du Guillaume Meurice dans le texte. Mais c'est que Cosimo est encore un môme. Sauf que cette satisfaction de pisser plus loin le tiendra perché, comme le chat, dans les arbres toute sa vie d'homme. Perché, mais pas misanthrope, exilé, mais pas fâché avec les autres, Cosimo ne séparera jamais son destin de celui de ses semblables, y compris des idées venues des Lumières, il va d'ailleurs rencontrer Voltaire et Napoléon, et de la Révolution, ça c'est pour Charline. Il fera des études, les livres seront au centre de sa vie, et il aura même un chien, le Basset, Ottimo Massimo, qui avec ses petites pattes de Basset reste à terre, mais pour autant, et je cite Italo Calvino, ils avaient Beau être différent de tous les autres chiens et de tous les autres hommes du monde, ils pouvaient bien se dire qu'en tant que chien et en tant qu'homme, ils étaient heureux. Là, je sens Alex s'agiter. Un chien, c'est bien joli, mais enfin bon, c'est maigre. Eh bien, Alex, Cosimo, tout perché qu'il soit, pratique également les choses de la vie tout à fait gaillardement. Il vous embrasse, merci bien. Jusqu'à ce qu'il aime une autre âme rebelle, une femme nommée Viola. Et là, attention, les banilons, c'est charnel, c'est musclé, c'est cinglé, c'est absolu, c'est dangereux donc. Même pour un homme qui se réclame d'abord et avant tout de la raison avec un grand R. Est-ce que cette histoire peut bien finir ? Vous vous référez au Rita Mitsuko. Enfin, un aspect qui m'avait échappé adolescente, mais qui m'a giflé à ma lecture de 2019. Bien qu'imaginé en 1957, Italo Calvino, sans doute voyant et extra-lucide, écrivait ça à la fin du roman. La forme des arbres suppléa toujours à la perte de ses forces, des forces de Cosimo. Puis arrivent des générations sans jugeote, marquées par une avidité sans prévoyance, amie de rien, ni de personne, pas même d'elle-même, pour que tout change, nul Cosimo désormais ne pourra plus cheminer de par les arbres. En 2019, peut-être, le Baron Perché est devenu un conte fantastique. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup. Italo Calvino, donc le Baron Perché en folio, en
oui,
poche.
Oui, et avec, en folio, parce qu'il vient d'y avoir une nouvelle traduction qui est super.
De l'intérêt de relire les classiques à plusieurs âges.
Traduction de qui ? Parce que sinon on va se faire engueuler.
Tout à fait, on va se faire engueuler. Attention,
prenez votre temps.
Et cette personne s'appelle Martin Rueff.
Bon, salut.
Et est-ce que je peux dire que j'aime beaucoup la façon dont vous avez conclu ? Parce que l'arbre aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre avenir. Mmh. Et si on ne le réalise pas vite, je pense qu'on va avoir d'énormes problèmes très très vite. Enfin, ouais. On les a déjà, mais ça risque de s'accélérer pas mal. Et c'est vrai que cette époque où on pouvait cheminer à travers toute l'Europe d'un arbre à un autre, on n'avait pas à l'imaginer aujourd'hui. Mmh. Hein.
T'as entendu François de Rugy ?
Qui ? À cause notamment de l'élevage.
Il faut 17h53.
La déforestation, c'est pas autre chose.
Sur France Inter,
sujet 3.
Dernier sujet. Des chercheurs qui étudiaient nos préférences en matière de boissons pour lutter contre l'obésité ont fait une découverte. Nous n'aimons ni le café ni la bière. Si. Mais les effets qu'ils produisent sur notre organisme au début. Et puis on s'habitue au goût. On aime les sensations que la bière et le café nous font ressentir. Quand vous commandez un expresso, c'est pour le petit coup de boost au départ ou pour l'arôme délicat de l'arabica.
Qu'est-ce que c'est que ce poison que ta boniche m'a monté ? On va me buter ! Je vous amène de la sélection puis vous me faites du jus de gland, faut quand même être con.
Râle pas, je vais t'en faire un autre.
Si c'est votre cafetière qui marche pas, achetez-en une autre. Si c'est le personnel, virez-le. Pas de Borgia à l'office.
Arnaud Daguin, vous êtes d'accord avec ces conclusions ?
Ah oui, le cap se rebiffe, hein, monsieur. Oui.
Le cap se rebiffe. C'est-à-dire que quand on commence à boire pour la première gorgée de bière, comme dirait Philippe Delerme, mm-hmm. ou la première gorgée de café...
Nous sommes tous des toxicos.
On ne commence pas parce que c'est le goût, on commence pour l'effet.
La différence entre nous, c'est la nature du toxique. C'est, voilà. Donc on est tous toxicomanes, d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec des dragibus ou avec du café ou de la bière. Et de fait, il y a quelque chose dont on ne parle jamais en termes d'alimentation, et c'est un peu dommage à mon sens, parce que ça réglerait quand même pas mal d'histoires de régime et de choses comme ça. C'est ce que j'appelle la proprioception alimentaire, c'est-à-dire le fait d'être suffisamment calme dans sa tête et donc de poser un peu le petit vélo à un moment donné pour pouvoir choisir ce qu'on va manger et à la première bouchée, savoir à peu près ce que ça nous fait par rapport à ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder, par exemple, un petit poulain qui est né il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, apprendre à manger avec sa mère. Est-ce que vous avez déjà vu ça ?
Non.
Alors, si vous vous focalisez sur le boulot de ses lèvres et de ses petites moustaches, là, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne mange pas n'importe comment, et un veau non plus d'ailleurs, mais ça broute de façon très très sélective. Et on voit bien qu'en fait, d'abord, il goûte un truc, il regarde, enfin, il attend de voir ce que ça lui fait, et puis après, il recommence ou pas sur ce truc-là, il passe à un autre, voilà, et il fait son apprentissage comme ça. Et en fait, nous, on a encore cette capacité-là quelque part, elle est fossile, elle est enfouie sous des couches énormes d'affect, de compensation, de culture, de marketing, tout le bordel. Mmh. Mais il n'empêche qu'on a ça quelque part. Et je suis à peu près sûr que si on sait se calmer un peu à des moments donnés, eh bien, on peut aller vers tous les toxiques du monde, mais de façon raisonnable, avec la sensation
d'être un peu plus conscient de ce qu'on bouffe, quoi.
Exactement.
Et je vous renvoie à cet article de Slate donc, qui nous explique qu'on préfère au départ les effets, puis qu'on s'habitue au goût et qu'on trouve ça bon après. 17h56, oui. C'est l'heure du sketch, Arnaud Daguin.
Je suis comme le poulain, parce que moi aussi je broute de manière sélective.
Mais que se passe-t-il ?
Oh, on va passer au sketch.
Il est déjà 56 ans. Oui,
je suis le sketch. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité.
Mais
vous êtes Arnaud Daguin. Ça tombe bien, le rôle ne va pas être trop difficile à composer. Uber Eats aurait ouvert de grands hangars pour préparer eux-mêmes les repas et pas devoir aller les chercher dans les restaurants. Et
pour les livrer à vélo.
Les livrer à vélo. Et donc, ils ont besoin de chefs. Ils ont pensé à vous. Guillaume est le chef du hangar. Charline est son bras droit. Pablo est un livreur.
Oh putain.
Et on se rend sur place.
Ouais, allô Pablo là, qu'est-ce que tu fous? Je viens d'avoir Hugo Clément au téléphone, il attend sa soupe miso là.
Ah putain, je me suis fait percuter par un Uber Eats en voiture. Ah, ça fait mal.
Ouais,
putain.
Bah tu finis à pied là.
Bah dis, c'est un accident du travail, ça, je suis couvert ou pas?
Ah ouais, d'accord, c'est excellent, faites pas rigoler, tiens.
Excusez-moi, je suis le nouveau chef cuisinier.
Oui, bienvenue monsieur Daguin. Alors, vous allez voir ici, on a un vrai respect du produit et de l'humain. Hein.
Si vous le dites. Qu'est-ce qui se passe?
Attention les gars, grosse commande là. Tu me rappelles tous les livreurs du secteur Paris-Est. Arnaud, c'est à vous de jouer. Hein.
Je suis votre homme.
Alors, 10 entrecôtes, 7 plateaux de fromage, 11 litres de fondue savoyarde, 30 kilos de hachis parmentier, 4 tables de frites, 12 McDonald's de Saint-Amour. Allez, on y va.
Allez, on lance la commande. Par contre, on va pas avoir ces deux viandes là. Hein.
Ok, bon, tu me rediriges tous les camions de Rungis sur le hangar.
Mais c'est pour combien de personnes ça?
Une seule personne.
Une?
Ouais, c'est Gérard Depardieu, il voulait une petite collation. Allez, ah Charline, tu tombes bien. Qu'est-ce qu'il fout Pablo?
Bah il terminait sa livraison à pied, mais il s'est fait percuter par un livreur Deliveroo en trottinette électrique.
Bon, tu lui dis de se démerder là, il y a 1500 papiers qui attendent pour prendre sa place. Ah, une nouvelle grosse commande, je crois que c'est pour vous Arnaud, 150 burgers au canard.
Ah ça tombe bien, c'est ma spécialité, c'est pour combien de personnes?
15. C'est le stade toulousain.
Ah oui, je comprends mieux.
Ouais, par contre pas trop grand hein, les burgers.
Ils aiment pas ça, le gras au Stade Toulousain?
Si, c'est par rapport au poids, là, pour notre livreur.
C'est un seul livreur qui va transporter les 150 burgers.
Voilà, et si on dépasse les 100 kilos, Alex, il arrive plus à pédaler. Bon, on a des nouvelles de Pablo.
Oui, pendant qu'il revenait de sa livraison à pied, il a été percuté par un livreur frichti à cheval.
Oh, putain, et Hugo Clément, il a eu sa soupe miso ou
pas? Ouais. Par contre, Pablo est dans le...
J'espère qu'il va mettre 5 étoiles.
Il est dans le coma. Merci beaucoup Arnaud Daguin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le vice-président de l'association pour une agriculture du vivant, que vous êtes aussi le cofondateur de la cave à vin et à manger à Paris qui s'appelle le GAG, gras, alcool, gluten, mais que du bon. Dans le deuxième arrondissement de Paris. Chef cuisinier Arnaud Daguin qu'on entend dans On va déguster chez François-Régis Gaudry sur notre antenne le dimanche à 11h dans des chroniques succulentes. Merci les amis. Pablo, merci. Juliette, Guillaume, Alex, merci beaucoup. On laisse le mot de la fin à notre hôte.
Je te confie à la graisse et après, dans le pot tout l'hiver. Je peux aussi chanter, si vous voulez.